un petit peu plus en détail sur cette maladie d'Alzheimer pour en connaître un petit peu plus. Et ben, je passe tout de suite la parole au professeur Bertrand de Toffol, chef du service de neurologie du centre hospitalier de Cayenne.
Merci. Merci pour votre participation. Merci à la Fondation et à Madame Charles de nous accueillir. Alors, je suis chef du service de neurologie de l'hôpital de Cayenne, mais je viens aussi consulter à Saint-Laurent-du-Maroni. La suivante. Alors, ça a été dit, le nombre important de personnes qui sont touchées, et même s'il existe des formes juvéniles, elles sont quand même moins de 5%, puisque le facteur de risque principal, c'est l'âge. Vous voyez, 15% après 80 ans, 50% à 100 ans. Sinamari, il y a beaucoup de centenaires, la moitié ont même d'Alzheimer. Le problème de cette maladie, c'est qu'elle génère une perte d'autonomie, mais aussi, ça a déjà été dit, mais je le souligne, une grande souffrance chez les aidants, les personnes qui prennent en charge ces patients. Et puis le coût est considérable pour la société. La suivante. Alors, quelques éléments pour comprendre cette maladie. Le cerveau est constitué de milliards de neurones qui établissent entre eux des connexions, des synapses, et ces neurones sont supportés par tout un tissu de soutien. Donc le problème de la maladie d'Alzheimer, c'est que les neurones meurent progressivement, inexorablement. On ne sait pas pourquoi, mais on connaît bien la cascade d'événements qui entraîne cette mort neuronale. Alors on connaît les facteurs de risque, et je vais juste vous décrire, j'espère le plus simplement possible, les anomalies biologiques principales, parce que c'est en comprenant ces anomalies qu'on comprend les directions de la recherche pour traiter et qu'on a pu développer des moyens de diagnostiquer le plus précocement possible cette maladie. La suivante. Alors vous avez là un neurone au milieu avec ses prolongements et vous avez deux anomalies principales, les plaques séniles. Plaques séniles dans lesquelles il y a un dépôt d'un peptide, d'une protéine qui s'appelle la protéine bêta-amyloïde. Et puis à l'intérieur des neurones, ce qui permet aux neurones d'être solides, l'architecture du neurone, c'est la neurofibrille. Et bien ces neurofibrilles dégénèrent. Et quand elles dégénèrent, c'est en rapport avec une protéine qui s'appelle la protéine Tau, qui est anormalement phosphorylée, enfin elle a des changements biochimiques particuliers. Et donc ça, c'est ce qu'on voit quand on regarde le cerveau après le décès d'un patient qui avait une maladie d'Alzheimer. Et l'intérêt de cette compréhension biologique, c'est que on peut doser maintenant dans le liquide céphalorachidien en faisant une ponction lombaire. Le liquide céphalorachidien, il baigne le cerveau et on peut le prélever en bas du dos. Bon, c'est un geste simple pour un neurologue. Et on peut doser maintenant la protéine bêta-amyloïde et puis la protéine Tau. Et donc faire un diagnostic très précoce, alors même qu'un patient a des symptômes extrêmement légers. La suivante. Alors, dans cette maladie, vous avez un certain nombre de stades. On parle de démence quand vous avez un trouble cognitif qui s'accompagne d'une perte d'autonomie. On peut avoir pendant très longtemps un trouble de mémoire isolé, mais être autonome dans la vie courante. Oui, il y a un stade prédémentiel, qu'on dit aussi prodromal. Puis ensuite, quand on rentre dans la maladie, il y a un stade léger, modéré, et à l'issue, un stade sévère. Dans le stade sévère, les patients ont perdu la mémoire, ont perdu le langage, ont perdu la capacité d'utiliser les objets, ont perdu la capacité de discriminer l'environnement et sont totalement dépendants de leur entourage. La suivante. Alors pourquoi est-ce qu'un médecin traitant ou une famille souhaite voir un neurologue ? Le plus fréquemment, c'est parce qu'il y a une plainte mnésique ou cognitive, pas tellement rapportée par le sujet, ça arrive, mais surtout rapportée par l'entourage. Tu perds tes clés, tu ne sais plus où tu as mis ta voiture. Ah si, ça, non, ouais, mais ça va revenir. Bon. Souvent, le patient, on dit qu'il est anosognosique, c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de l'étendue du problème, et l'entourage souhaite avoir un avis neurologique. Parfois, c'est une modification du comportement. La personne a changé, plus comme avant. Elle est renfermée, ou au contraire, elle s'énerve de manière inexplicable. Dans tous les cas, ces symptômes sont de début insidieux. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un début brusque, c'est toujours très progressif. Ah oui, il y a 3 mois déjà, il avait oublié. Et puis ça évolue très progressivement. La suivante. Alors que va faire un neurologue ? Dans un premier temps, il va faire un interrogatoire complet pour rechercher tous les antécédents médicaux, parce que notamment les antécédents cérébrovasculaires, les AVC, c'est un facteur de risque de développer une maladie d'Alzheimer, les antécédents psychiatriques, enfin, ce que j'ai mis sur cette diapositive, l'ensemble des choses que l'on recherche pour avoir une bonne vision de l'histoire personnelle d'un malade. La suivante. Ensuite, le neurologue va faire un examen clinique complet, et puis il va faire une évaluation cognitive simple, que je vais vous montrer tout de suite, et il va prévoir 3 choses. Il va prévoir un bilan neuropsychologique. Le bilan neuropsychologique, c'est un bilan détaillé des fonctions cognitives. Ça prend 2 heures, et donc ce n'est pas lors de la consultation initiale que c'est fait. On organise ce rendez-vous avec un personnel spécialisé qui est le ou la neuropsychologue, un psychologue spécialisé dans les fonctions cognitives. Et puis on va prévoir des examens, une prise de sang complète, une IRM cérébrale, je vais vous en reparler. Et puis, dès cette première consultation, le neurologue se fait une idée du degré de l'atteinte. Est-ce que c'est un trouble isolé d'une fonction cognitive ? On parle de MCI, mild cognitive impairment, c'est par exemple un trouble isolé de la mémoire, ou bien est-ce que la maladie est déjà à un stade avancé ? En Guyane, on voit arriver des personnes qui sont déjà à un stade très avancé de la maladie quand ils voient le neurologue. Ça s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une tolérance en fonction des cultures. Une personne, elle vit en communauté, puis on ne se rend pas bien compte des troubles. Et puis surtout, malheureusement, en Guyane, vous le savez, et vous le déplorez comme moi, on a une sous-médicalisation. On n'a pas assez de médecins généralistes, on n'a pas assez de neurologues, on n'a pas assez de neuropsychologues, d'orthophonistes. La suivante. Donc voilà un exemple. Je vais juste insister sur un point. Voilà comment on fait une évaluation globale. Ça s'appelle le NMS, cet examen-là. Il y a 30 items. On est un point par item. Vous voyez, je vous pose quelques questions. Quelle est la date d'aujourd'hui ? En quelle année sommes-nous ? En quelle saison ? L'élément clé pour suspecter une maladie d'Alzheimer, c'est l'apprentissage. On donne 3 mots. Par exemple, citron, clé, ballon, répétez. Citron, clé, ballon. Encore une fois. Citron, clé, ballon. On fait ce qu'on appelle une tâche interférente. Faites du calcul. 100 moins 7, ça fait combien ? 93. Moins 7, 86. Ok, quels sont les 3 mots de tout à l'heure ? La personne qui est incapable de restituer ces 3 mots après une tâche interférente a un trouble de l'encodage mnésique et c'est l'un des premiers symptômes de la maladie. La suivante, donc, à l'issue de ce bilan, je vais insister sur le bilan neuropsychologique dont je passe vite, on a déjà une estimation de l'efficience cognitive globale. En principe, on a 30 sur 30. C'est des questions simples. Prenez cette feuille, pliez-la en deux, jetez-la par terre. C'est un ordre simple. Et le fait que certaines personnes ne puissent pas l'exécuter montre une atteinte cognitive. La suivante. Donc, les examens, une prise de sang complète. On va rechercher des maladies qui peuvent donner des troubles cognitifs et qui sont curables. C'est le cas notamment de certaines maladies infectieuses. La syphilis, par exemple, le sida, peuvent donner des troubles cognitifs. Et on va faire une IRM cérébrale, c'est une radio très perfectionnée du cerveau, qui va également permettre de visualiser les structures qui supportent la mémoire, qu'on appelle les hippocampes. On les appelle les hippocampes parce qu'ils ressemblent de loin à un hippocampe. Et éventuellement, dans les formes débutantes, on va pouvoir faire une ponction lombaire pour doser les marqueurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour argumenter de manière biologique le diagnostic. La suivante, vous avez là une IRM cérébrale, c'est une radio du cerveau. Donc sur la partie droite de l'image, vous avez une coupe coronale, on coupe comme ça, les oreilles sont de part et d'autre, et à la face interne de l'œil temporal, on voit ces structures de l'hippocampe qui sont, dans le cas présent, anormalement atrophiées. La suivante, à l'issue de ce bilan, bilan neuropsychologique, prise de sang, IRM, eh bien, il faut faire attention à ne pas passer à côté d'autre chose qu'une maladie d'Alzheimer. Et vous voyez, ça peut être assez varié, et le bilan neurologique est donc très important pour ne pas porter de diagnostic hâtif. Ça peut être une complication iatrogène. Iatrogène, c'est-à-dire c'est un médicament qui est mal supporté, qui donne trouble cognitif. Ça peut être aussi des toxiques, une dépression, une anxiété. Un grand nombre de pathologies doivent être écartées avant de retenir ce diagnostic. Diagnostic qui, du vivant d'un patient, est toujours un diagnostic de probabilité, forte probabilité. La suivante, à l'issue de ce bilan, en général, on peut dire au patient et à sa famille, bon, il y a effectivement une maladie neurodégénérative, cette mort progressive des neurones, et donc là, maintenant, on ne peut pas guérir la maladie d'Alzheimer aujourd'hui, le docteur de la Doucette vous l'a dit, mais on peut prendre soin des gens, c'est très important. Et pour prendre soin, on a besoin d'une véritable équipe. Le médecin traitant, la famille, informée, quels sont les droits, l'assistante sociale, l'ALD, hein, c'est une infection de longue durée prise en charge par la Sécu, et puis un ensemble de personnel de santé ou non, par exemple une personne qui perd ses facultés cognitives, elle a une carte bancaire, on peut abuser de sa vulnérabilité, c'est compliqué à gérer, le juge des tutelles peut éventuellement mettre un tuteur ou une tutrice en place. Bref, les associations sont également très importantes. Et le dernier point, mais le plus fondamental, on finit toujours par le plus important, c'est la personne qui va aider. Il faut l'accompagner, il faut lui expliquer. Il faut vraiment lui fournir toutes les informations sur les structures de jour, sur la manière d'organiser la relation avec la personne malade, pour que cet aidant, qui est souvent une aidante, hein, ça a été dit, ne s'épuise pas. Les aidants, ils ont leur vie, ils ont leur famille, leurs enfants, leur mari, leur conjoint, leur métier. Et en plus, ils doivent s'occuper de la personne. Et si on n'y prend pas garde, très vite, on voit arriver un épuisement, une mauvaise qualité de vie de la personne qui aide, qui retentit forcément sur la personne malade. La suivante. Alors, je vais maintenant faire un focus sur le bilan de mémoire. Le travail que fait la neuropsychologue. Alors, je remplace ma neuropsychologue pour cet exposé. Donc, la neuropsychologue reçoit la famille, enfin, le patient et son entourage. C'est très important, quand on est dans ce cadre de diagnostic, de venir accompagner pour qu'on puisse commencer par interroger la personne malade, mais également ensuite le conjoint, la fille, le fils, la personne qui accompagne. Donc, la neuropsychologue fait un entretien, reprend tous les antécédents, pose des questions à la personne. Est-ce que vous connaissez la date? Est-ce que vous savez où nous sommes? Pourquoi venez-vous passer un bilan de mémoire? Et ensuite, elle va faire des tests. La suivante. Alors, je dis la neuropsychologue, il y a des neuropsychologues masculins, mais très, très fréquemment, c'est quand même en majorité des femmes. Alors, vous voyez, l'évaluation va porter sur 4 points, l'efficience globale, les capacités mnésiques, et ce qu'on appelle les fonctions instrumentales et les fonctions exécutives que je vais détailler. La suivante. Alors, l'efficience globale, je vous ai montré le MMS. Le MMS, ça prend 5 minutes, enfin 10 minutes pour le faire passer. Et ça permet d'avoir une idée globale de la situation, en sachant que ma voisine, Madame la professeure Hergis, a développé des tests spécifiques aux patients guyanais. Parce que bien sûr, si vous montrez, un agouti à quelqu'un qui vit en métropole, il ne va pas savoir ce que c'est. Donc on doit adapter les questionnaires à ce que savent naturellement les gens. La suivante. Ensuite, on va évaluer les capacités mnésiques. Alors, la mémoire, en fait, c'est une structure compliquée. Il y a plusieurs modules qu'on va pouvoir tester séparément. On commence toujours par la mémoire autobiographique, en faisant contrôler par le proche qui accompagne la justesse des réponses. On interroge sur quel était votre métier, qu'est-ce que vous avez fait comme profession, quand êtes-vous parti à la retraite. Mais ça peut être aussi sur les faits récents, qu'est-ce que vous avez mangé hier après-midi, hier soir, qu'est-ce qui se passe, combien avez-vous de frères et sœurs, de petits-enfants. On a même des questionnaires structurés, c'est-à-dire une série de questions préétablies qui permettent d'aborder ça. On peut également tester la mémoire sociale, par exemple classer du premier au dernier les présidents de la Ve République. Christian Kelmeyer-Zemmer va vous dire ouais, « la politique, ça ne m'intéresse pas ouais, ». Il va essayer d'éviter de tenir en difficulté. La suivante. Ensuite, on teste les capacités mnésiques avec des tests qui portent des noms techniques, hein, le gros béret bouche ou le RLRI-16. En fait, ça consiste à... Vous avez un exemple ici avec quatre mots. On demande aux patients de les répéter. Harangue, gilet, domino, jonquille, encore. Ensuite, on va lui donner des indices. On va dire quel est le poisson, quel est le vêtement, quel est le jeu, quelle est la fleur. Et puis, on va faire en sorte que s'assurer que la personne a bien compris la consigne. Et après avoir fait une tâche interférente, on va lui demander de rappeler, soit spontanément, soit avec l'aide d'un indice, quel était le poisson. On va regarder si la personne a été capable d'encoder, c'est-à-dire de mettre ses mots en mémoire. La suivante. Alors, on a également la mémoire sémantique, c'est la mémoire des mots. Et puis, on a des tests qui permettent d'apparier. Par exemple, on demande à la personne, vous voyez l'animal là-haut, c'est quoi ? Bah, c'est un lapin, oui. Qu'est-ce qui va avec le lapin ? La carotte ou l'os ? En principe, c'est la carotte. La suivante. Donc, vous voyez les tests pour l'encodage, pour l'appariement, et puis on teste aussi la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est ce qui sert à maintenir pendant quelques secondes les éléments en tête pour pouvoir les manipuler et ensuite éventuellement s'en souvenir. Alors, on fait un test, par exemple, ce qu'on appelle l'empan, on donne des chiffres répétés, 4, 6, 3, ben, 4, 6, 3, à l'envers, 3, 6, 4. On peut comme ça tester, soit avec des mots, soit avec d'autres modalités perceptives comme la vision, la capacité de maintenir pendant un certain temps des éléments pour les manipuler. La suivante. Après, on teste les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est ce qu'on appelle aussi les fonctions frontales. Les fonctions frontales, elles servent à planifier, à s'abstraire d'une tâche pour en faire une autre, à inhiber un comportement. Et pour cela, on a des tests standardisés. Je vous en ai mis un ici, le Train Making Test, le TMT. Alors, une première partie, on dit aux personnes, voilà, prenez un crayon, puis vous allez relier les chiffres par ordre croissant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Partie B, maintenant vous allez faire la même chose, mais en alternant les lettres de l'alphabet et les chiffres. Donc il faut qu'ils mettent 1, puis A, puis 2, puis B, 3, puis C. Vous voyez, ce test, on doit inhiber la première consigne et être capable de comprendre qu'elle a changé et qu'elle est plus complexe. La suivante. Ensuite, on évalue le langage. Très fréquemment, quand la maladie évolue, on a un manque du mot. Hein, montrer cet objet, qu'est-ce que c'est ? La personne vous dit « Ah, ben c'est pour voir l'heure ». Elle a oublié le mot « montre » et donc elle donne une définition par l'usage. L'expression orale, le discours spontané, la compréhension, l'écriture. On a un éventail de tests qui permettent de mesurer le langage de manière précise. Et puis, on teste également les fonctions visuo-spatiales. Vous voyez, par exemple, on dit au sujet, décrivez-moi cette image. Ah oui, l'image, elle est compliquée. Il y a un évier qui déborde, il y a des enfants qui menacent de tomber là sur la partie gauche. Et on va voir ce que dit le sujet. Le sujet qui a perdu ses capacités de discrimination visuelle, il va dire, ah ben, il y a une dame qui fait la vaisselle. C'est tout ? Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'il a du mal à analyser l'image de manière complexe. La suivante, les praxis, c'est les gestes finalisés. Quand, par exemple, vous bricolez, quand un homme se rase, quand il plante un clou, ben, il a une série de gestes organisés qui permettent de réaliser la tâche. Eh bien, ces fonctions-là aussi sont touchées par la maladie et on a une apraxie, c'est-à-dire une incapacité d'utiliser les objets usuels, téléphone portable, les objets du quotidien. Et pour ça, on le teste en faisant différentes épreuves. On demande au sujet, voilà, faites comme si vous deviez planter un clou. Comment est-ce qu'on fait pour allumer une bougie? Est-ce que vous pouvez faire un triangle dans l'espace, un rond, un carré? Tous ces gestes-là. Et puis ensuite, les praxis constructives, la copie d'un dessin, là, une figure de raie à gauche, là. On demande au sujet de recopier un cube. Recopier un cube, ça demande d'avoir une visualisation de l'espace, vous voyez, de faire en perspective le dessin. Et ça, en cas de trouble praxique, c'est échoué très rapidement. Une des conséquences pratiques des apraxies, c'est par exemple la personne ne peut plus s'habiller toute seule, ne peut plus fermer sa fermeture éclair, ne peut plus boutonner sa chemise ou nouer ses lacets, parce qu'il a perdu le geste. La suivante. Et enfin, les gnosies. Les gnosies, c'est la capacité de percevoir avec les différents sens. Ah, vous voyez, par exemple, le traitement perceptif visuel, ce dessin, on demande au sujet, combien y a-t-il d'objets différents sur ce dessin? Ah oui, un parapluie, une botte, des gants, un chapeau, parce qu'on est capable de discriminer ces figures enchevêtrées. En cas d'agnosie, le A privatif grec, hein, gnosie, la connaissance, en cas d'agnosie, ben, la personne vous dit je vois pas trop, c'est du gribouillis. Voilà. La suivante. À l'issue de ce bilan, la neuropsychologue a une photo extrêmement précise des capacités cognitives touchées et des capacités cognitives préservées. Donc, dans les formes typiques, au tout début de la maladie, quand le sujet est encore autonome, il a un trouble isolé de l'encodage mnésique. Tout le reste fonctionne. Et au terme de la maladie, il y a un trouble massif de la mémoire et un syndrome aphaso-apraxo-agnosique. La personne est devenue grabataire et totalement dépendante de son entourage. À l'issue du bilan, la neuropsychologue va donner des conseils, des informations, va surtout interroger le conjoint sur la manière dont ça se passe au quotidien, va bien sûr interroger la personne, examiner sur la manière dont les tests ont été vécus. On explique les résultats et puis surtout, on réorganise une consultation avec le neurologue qui, entre-temps, aura fait faire la prise de sang et réaliser l'IRM. Et enfin, la neuropsychologue a de bons conseils, elle connaît les ressources disponible et elle va dire, voilà, il faut une prise en charge orthophonique, il faut pouvoir travailler sur les capacités préservées pour limiter les conséquences du trouble qui a été observé. La suivante, les conseils de prise en charge orthophonique sont variés, sont complexes, ça dépend du stade de la maladie, il y a une prise en charge individuelle, il y a des prises en charge, la suivante également de groupe, en sachant que malheureusement en Guyane, on a une pénurie, mais dramatique, d'orthophonistes. Les orthophonistes, c'est un métier qui est varié. Vous avez des orthophonistes qui s'occupent que des enfants. Il y a des orthophonistes qui s'occupent par exemple de la déglutition. Quand les gens ont eu une opération ORL, on leur réapprend à déglutir. Et donc les orthophonistes qui font de la neuropsychologie, c'est une petite partie des orthophonistes. En Guyane, il n'y en a pas. Enfin, toutes les familles qui disent on a essayé de joindre l'orthophoniste, c'est catastrophique, quoi. Ça, c'est une chose aussi que ce genre de réunion devrait permettre d'améliorer. La suivante. C'est également l'occasion, à la fin du bilan neuropsychologique, d'intégrer l'aidant dans toute la prise en charge. On donne des conseils à la personne qui va s'occuper du malade. La suivante. C'est la dernière. Merci pour votre attention.
Merci, professeur Bertrand de Toffol, pour toutes ces précisions. Alors, je vais vous donner la parole, messieurs, dames. Je suppose que vous avez plein de questions après ces quelques minutes de détails sur la maladie. Alors, n'hésitez pas, le micro circule.
Bonjour à Monique Didier du Québec. Je voudrais savoir si, avec une prise de sang, on peut déterminer être touché par la maladie.
Alors, pas encore. On est en train de développer des techniques pour doser la protéine amyloïde et la protéine tau dans le sang, mais ce n'est pas encore disponible. On doit passer par une ponction lombaire.
Merci.
D'autres questions ? Alors, je rappelle, on est là pour avancer un petit peu sur le sujet. Pas de questions personnelles ? On va directement à l'essentiel.
Personnel, je ne sais pas, nous sommes 215 000 sur le Maroni à parler une langue qui serait évidemment très satisfaite de voir les professionnels, peut-être lorsqu'ils font des tests avec des personnes concernées, avoir un médiateur culturel auprès d'eux, parce que c'est impossible de faire une enquête de cette nature auprès d'un non-francophone. Et si l'aidant n'est pas lui-même en mesure véritablement de répondre, pas à la place de la personne que vous interviewez, il y a des difficultés. C'est ma difficulté, je suis papagé, je préside Maman Bobby depuis plus de 40 ans, et je suis ancien ethnothérapeute. Et depuis quelques années, hélas, nous allons sur le fleuve, et je vous remercie, docteur, de nous montrer quelle est la méthodologie qui finalement aboutit à un pronostic partagé, j'imagine, même si vous indiquez qu'il faut quand même aller chez le neurologue pour tous les autres examens. Sur le fleuve, il n'y a pas de diagnostiqueur. C'est très très rare. Si la personne n'est pas revenue sur son village parce qu'il n'arrivait pas à avoir une aide dans le milieu urbain, il va se trouver tout seul sur le fleuve là-haut. Mais il y aura des aidants, des gens qui vont l'aider. Alors voilà, le grand-père a perdu la tête, comme j'ai entendu tout à l'heure. Eh bien, des grands-mères aussi qui sont « Ah, elle est devenue folle ». On les rencontre souvent lors des enterrements, des funérailles, parce qu'elles sont là, c'est sûr, c'est les survivants, survivantes. J'aurais été heureux, docteur, que si vous êtes là encore, puisque vous êtes à Cayenne, n'est-ce pas, que vous puissiez comprendre quelle est la situation de tous ceux qui, lorsqu'ils demandent une consultation avec médiation à l'hôpital, ben c'est vous que l'on attend, parce que vous n'êtes pas là suffisamment longtemps pour pouvoir répondre à la demande de ceux qui sont déjà très impressionnés, comme moi, par la complexité de ce questionnaire. On n'imagine pas, mais je réalise très bien maintenant qu'il vous faut ce questionnaire et ces réponses pour poser un diagnostic. Merci, docteur.
Merci. Alors, quand même, je viens consulter au CHUM, et puis deux de mes collègues viennent aussi, donc il y a quand même une prestation neurologique, et effectivement, comme vous le dites très bien, quand je viens, moi je ne parle pas taki-taki, pas encore, et j'ai un médiateur qui doit m'aider. Alors effectivement, il y a une perte d'information quand on ne peut pas interroger directement, mais malgré tout, ça rend service. Vous savez, il y a 22 cultures différentes en Guyane, et même à Cayenne, vous avez des gens qui parlent portugais, des Hmongs qui parlent chinois, c'est extrêmement varié, et les médiateurs sont un élément très important de la prise en charge. Au CHUM, il y en a, hein, vraiment, j'ai jamais eu de problème de barrière linguistique, il y a toujours quelqu'un pour venir m'aider.
D'autres questions ?
Bonjour à tous. Juste une question, c'est surtout sur par rapport aux aidants. Est-ce que c'est normal, tout d'abord, que les personnes qui sont malades, qui ont cette maladie, deviennent agressives, verbalement ou physiquement? C'est la première question. J'ai une deuxième question en fonction de votre réponse. Merci.
Alors, oui, c'est des choses qui peuvent se voir, parfois même précocement. Alors, pourquoi? Imaginez que vous avez oublié où vous avez posé votre carte bancaire. Une explication qui vient à l'esprit, c'est « on vous l'a volé ». Ou quelqu'un vous l'a prise. Et donc, la personne peut accuser très fréquent sa femme de ménage. Dire à sa fille, la femme de ménage m'a piqué ma carte bancaire. Et se mettre en colère. Ou alors, comme les personnes deviennent irritables, ne contrôlent plus très bien leurs émotions, peuvent se mettre en colère contre c'est d'ailleurs très douloureux pour l'aidante d'avoir sa mère ou son père qui commence à être agressif. Parfois même les gens vous disent, mais jamais il n'a dit des gros mots comme ça. C'est... Et même parfois, bousculer, en sachant que bien évidemment la personne ne le fait pas exprès. C'est un des symptômes de sa maladie qui explique ses troubles du comportement. Parce que tout finit par se dégrader, quoi.
Pourquoi dans l'agressivité ? C'est ça, parce qu'en fait, on aurait pu se dire aussi que la maladie rend les personnes encore, comme nous on disait quand les personnes sont vieilles, deviennent des bébés. Et pourquoi moi, l'expérience que j'en ai autour de moi, c'est de l'agressivité. C'est toujours de l'agressivité. Et bon, je dis ça, bon, vous m'avez expliqué, mais surtout, ce que je vous pose cette question-là, c'est que quand on explique ça, il faut expliquer ça aux aidants. Je crois, pour moi, c'est la première chose qu'il faut dire aux aidants, parce que c'est ceux qui déstabilisent déjà voir ses parents dégradés et en plus les voir agressives quand elles n'ont pas eu, on n'a pas vécu avec cette agressivité, ça déstabilise fortement et